Nous venons de terminer le livre des rois. Depuis le livre de Josué jusqu'au livre des rois, on a une section de textes de genre littéraire qu'on appelle narratif. Vous avez vu, on raconte des histoires. On vous raconte l'histoire de l'établissement du peuple en terre promise avec Josué, la période des juges, et puis ensuite l'établissement de la monarchie dans les livres de Samuel, avec David notamment dans le deuxième livre de Samuel, et puis ensuite toute la période de la royauté avec Salomon, jusqu'à la destruction du royaume, le schisme, la destruction du royaume du Nord, et puis enfin la déportation de la population à Babylone. Donc toute cette grande fresque historique qui couvre pratiquement un demi-millénaire, eh bien elle est relatée dans tout ce bloc de Josué jusqu'au roi. On appelle ça l'histoire deutéronomiste ou l'historiographie deutéronomiste, puisque le vocabulaire est proche, et la terminologie, la visée, à certains égards, est proche de ce qu'on trouve déjà dans le livre du Deutéronome. Donc l'idée, c'est que les gens qui ont rédigé, ou en tout cas assuré la rédaction finale de l'ensemble de Josué, deuxième livre des rois, c'est un milieu de rédaction de type deutéronomiste. Il y a une cohérence d'ensemble. Ça, c'est donc la terminologie scientifique moderne. La terminologie traditionnelle, on dit que ce sont les prophètes antérieurs. Alors que là, ce que nous attaquons maintenant, ce sont les prophètes postérieurs. Et on commence avec Isaïe. Alors, les prophètes postérieurs sont constitués d'une part de trois grands prophètes. Vous avez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ce sont des gros blocs de prophètes d'un bon gabarit. Et puis ensuite, on verra aussi les 12 petits prophètes, on en parlera, qui en fait forment un seul livre. C'est le livre des 12 petits prophètes. Le livre qu'on regarde aujourd'hui, c'est le livre d'Isaïe. C'est celui qui arrive en tête, c'est le plus long. C'est aussi, bon là c'est un jugement purement personnel, c'est aussi un livre absolument fabuleux, qui à lui tout seul synthétise l'ensemble du discours prophétique. C'est-à-dire que finalement, si vous avez lu le prophète Isaïe, vous avez à peu près lu tout ce qu'il y a à lire des prophètes, le discours du prophète. Donc c'est-à-dire qu'il va condamner le peuple parce que ça ne va pas. Il va encourager le peuple, il va le consoler, il va lui donner des perspectives d'avenir. Il va envisager l'intervention divine à la fin des temps. Donc finalement, les différents types de discours que vous pouvez mettre dans la bouche d'un prophète, vous allez les trouver dans le livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe est devenu extrêmement populaire, je pense pour cette raison, dans le judaïsme à l'époque du Second Temple. C'est le prophète qui est le plus attesté parmi les manuscrits de la Mer Morte. C'est aussi le prophète qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. À mon avis, c'est à raison. Alors le prophète Isaïe, on nous donne le cadre chronologique dès le départ, dès le premier verset. Vision d'Isaïe, fils d'Amoz, qui lut sur Juda et Jérusalem au jour d'Ozias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias. Alors si vous avez appris votre leçon depuis la semaine dernière, vous devriez pouvoir me dire en un clin d'œil quand ont vécu ces rois et où, etc. Je vous épargne le travail. Ce sont des rois qui ont vécu au 8e siècle avant notre ère. On va dire, grosso modo, dans le dernier tiers du 8e siècle avant notre ère. Donc ça, c'est l'époque supposée à laquelle il faut rattacher le prophète Isaïe. En réalité, ce qu'on va voir, c'est que la deuxième partie du livre d'Isaïe, à partir du chapitre 40, s'adresse, disons, à la population qui a été déportée à Babylone et évoque son retour à l'époque perse. Donc ça invite à situer cette deuxième partie du livre d'Isaïe, non pas à l'époque du 8e siècle avant notre ère, mais plutôt à l'époque du 6e siècle avant notre ère. Dans la deuxième partie, on ne trouve plus du tout d'allusion, par exemple, au roi assyrien ou au royaume du Nord, puisque le royaume du Nord a déjà été disloqué. Je vous rappelle, c'est 722 avant notre ère. On l'a vu la semaine dernière, en 722 avant notre ère, les néo-assyriens arrivent et puis déportent la population, détruisent Samarie. Alors que là, une partie des prophéties sont à placer avant, puisqu'on annonce l'avenue, on met en garde contre l'avenue des néo-assyriens. Donc, vous avez grosso modo deux parties dans le livre d'Isaïe. Une première section des chapitres 1 à 35, qui sont essentiellement des oracles de jugement. C'est pas très gai, si vous voulez. Vous lisez ces chapitres-là, ce sont des oracles de jugement. On condamne, on avertit, on dit attention, c'est pas bien, et si vous continuez, vous allez souffrir, vous allez devoir endurer le châtiment divin. Et puis, dans la deuxième section, chapitres 40 à 66, là, on change de discours. La tonalité, la teneur est plutôt la teneur de consolation, d'encouragement. Donc, vous avez deux sections, 1 à 35 d'une part, 40 à 66 d'autre part. Entre les deux, les chapitres 36 à 39, en fait, c'est une sorte d'interlude. C'est un interlude narratif, historique. En fait, ce sont des chapitres qui sont pratiquement du copier-coller par rapport à ce qu'on a dans le deuxième livre des rois, chapitres 18 à 20, et qui servent en fait de transition historique entre l'époque de la première partie d'Isaïe, du proto-Isaïe, ce qu'on appelle le proto-Isaïe, donc époque néo-assyrienne, et puis on bascule gentiment vers l'époque néo-babylonienne, qui sera le contexte du deutéro-Isaïe, c'est-à-dire la deuxième partie du livre d'Isaïe. Donc voilà ces deux parties majeures avec leurs teneurs respectives. Alors si on regarde un peu plus près la première partie maintenant, chapitre 1 à 35, on a donc cette partie qui est une partie de jugement, d'oracle de jugement. On a une première section qui sont les chapitres 1 à 5, qui sont une sorte d'introduction générale, qui fait le point finalement sur ce qui est reproché au peuple. Donc ça s'adresse contre Israël et Juda, donc on est à l'époque où il y a bien deux royaumes, au nord, Samarie, au sud, Jérusalem. Et donc on vient condamner l'iniquité du peuple, tant en Israël qu'en Juda. Et ces chapitres servent d'introduction, on explique le problème, on expose le problème, et on le retrouvera tout au long du livre. À vrai dire, pas simplement dans la première partie, mais même dans la deuxième partie. Ce qui fait que on peut s'interroger pour savoir si ces cinq premiers chapitres sont l'introduction de la première section, je vous disais, les chapitres 1 à 35, ou bien est-ce que finalement ces premiers chapitres ne servent pas d'introduction globale à l'ensemble du livre. Voilà. Donc ça c'est parce qu'on retrouve, figurez-vous, des choses qui sont mentionnées dans le premier chapitre, on va les retrouver très très loin dans le Deutéro-Isaïe, au chapitre 58 par exemple, etc., etc. Donc ça plaide en faveur d'une unité globale du livre. Quand, vous voyez, c'est toujours intéressant de s'intéresser à la chronologie du livre, de dire quelles sont les phases rédactionnelles du livre, quelle section a été écrite à telle époque. Donc par exemple, on peut s'imaginer que la première partie a été rédigée plutôt au 8e, 7e siècle, que la deuxième partie a pu être rédigée au 6e, 5e siècle avant notre ère. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble du livre forme une cohérence. Et il a circulé très tôt dans son intégralité. C'est-à-dire que c'est pas comme le livre des 12 petits prophètes où on dit, voilà, il y a 12 petits prophètes et puis on les a mis dans un seul livre. Là, on dit, non, il y a un seul livre, c'est le livre d'Isaïe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi chercher la cohérence d'ensemble, l'unité littéraire d'ensemble, et il y en a une. Et en particulier, ces premiers chapitres qui servent d'introduction pourraient servir à l'introduction de l'ensemble. Alors regardons un petit peu ces thématiques qui sont abordés dès le premier chapitre. Il est question, verset 2, de révolte. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Israël, lui, ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Donc, vous voyez, dès les premiers versets, on annonce la couleur. Dieu est dans une relation parental, familial avec son peuple. C'est son peuple, ce sont ses enfants. Donc il a cet amour de père pour ses enfants. Donc ça, on ne remet pas ça en question. Seulement, voilà, Israël est un fils rebelle. Autrement dit, il désobéit. Et cette désobéissance, elle se traduit, donc, le vocabulaire ensuite qu'on trouve, c'est le péché. Quel malheur pour cette nation pécheresse, verset 4, ce peuple chargé de fautes. Ils ont abandonné le Seigneur. Donc, voilà le problème. Le peuple d'Israël désobéit. La conséquence arrive au verset 7. Votre pays est dévasté, vos villes sont incendiées, des étrangers dévorent votre terre devant vous. Donc on dit, voilà la conséquence de la désobéissance, c'est la venue des ennemis comme châtiment divin qui vont dévaster le pays. Donc ça c'est l'étape suivante. Et puis au verset 9, donc là, vous voyez, on est vraiment, c'est un résumé, hein, vous voyez, c'est comme un plan, c'est comme premier plan. Au verset 9, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé des survivants, nous serions vite devenus comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Sodome et Gomorre étant des villes détruites dans le livre de la Genèse, si vous vous souvenez. Et là, il est question de laisser des survivants. Et là, on introduit une notion fondamentale dans le livre d'Isaïe, c'est la théologie du reste. C'est-à-dire que Dieu punit son peuple, certes. La désobéissance entraîne le châtiment, mais cette destruction n'est jamais totale et jamais finale. Dieu prend toujours soin de préserver un reste. Et ce reste, il le restaure par la suite. Ça veut dire que le châtiment de Dieu, il n'est que temporaire. C'est pas la finalité. Dieu dit pas, voilà, le châtiment arrive, c'est fini, adieu, bye bye. Non. Le châtiment a une raison d'être, il a un but, qui est de ramener le peuple dans le droit chemin, et ensuite de pouvoir restaurer le peuple. Donc vous voyez, déjà dans ces versets, vous avez de façon très compacte, très synthétique, vous avez l'ensemble des thématiques qui seront ensuite développées. Ensuite, on vient préciser, on vient caractériser cette désobéissance. On vient d'annoncer, il y a un, désobéissance, deux, punition, troisièmement, restauration. Eh bien, on revient sur la question de cette désobéissance. Et en particulier, sur cette désobéissance dans le cadre religieux. Ce n'est pas le seul cadre, mais on va dire que c'est le premier cadre. On est dans un cadre religieux, donc cultuel. Et dans le cadre cultuel, Dieu n'est pas content. Il dit, verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers, etc. » Verset 13, « Cessez d'apporter des offrandes inutiles. » Verset 14, « Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. » Verset 15, « Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux. Vous multipliez les prières, je n'entends rien. » Donc Dieu ici dit, voilà, vous faites preuve d'une certaine religiosité, certes, c'est pas ce qui m'intéresse. À la fin du verset 16, cessez de faire le mal, verset 17, apprenez à faire le bien. Cherchez l'équité. Vous voyez, donc il y a ce discours très clair en disant, les sacrifices, les fêtes, les rencontres festives, etc., tout le système sacerdotal et sacrificiel cultuel, je m'en fiche. Alors, c'est pas que Dieu s'en fiche complètement. On a étudié le Pentateuque, on voit, il y a des règles très précises, on a vu le livre du Lévitique, le livre de l'Exode, Dieu donne des instructions très précises sur quel type d'animal il faut sacrifier, à quel moment, quand, de quelle manière il faut le dépecer, le mettre en morceaux, etc. Donc, Dieu est à la fois le Dieu qui va être très précis sur ses exigences au niveau de la célébration des fêtes, mais en même temps, il est très clair sur le fait ici, le discours qu'on a ici, c'est que, là encore, ces sacrifices, ces célébrations ne sont pas une fin en soi. C'est un moyen d'être en communion avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Or, cette communion avec Dieu, elle requiert la sainteté. Cette sainteté, bien sûr, elle va nécessiter tout un tas de pratiques. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. C'est ça, la sainteté. Mais la sainteté, c'est aussi une sainteté dans le comportement. Alors, on a déjà eu un écho de ça dans le premier livre de Samuel, avec le problème du premier roi, Saül, qui, de façon répétée, désobéit. Et à un moment donné, le prophète Samuel est obligé de dire, au chapitre 15, il dit, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et là, c'est finalement le même discours qu'on retrouve. Et c'est un discours que vous retrouverez, donc on l'a eu dans la bouche du prophète Samuel, on l'a dans la bouche du prophète Isaïe, vous la retrouverez un peu plus loin, chapitre 58, chapitre 66 d'Isaïe, vous retrouverez également dans d'autres prophètes, Amos, chapitre 5, également développe le même discours en disant, mais voilà, vos sacrifices, je les hais, je les déteste, cette odeur, je ne peux pas sentir vos sacrifices. En particulier, les sacrifices ont une vocation, une des raisons d'être, pas la seule, mais certains sacrifices ont pour vocation l'expiation des fautes. On l'a vu quand on a vu le système sacerdotal, il y a des sacrifices de réparation, des sacrifices, etc. Les holocaustes, certains sacrifices sont faits pour réparation ou expiation des fautes. Or, précisément, ce que Dieu dit, c'est que ces sacrifices, il ne veut pas les voir. Précisément parce que le peuple n'est pas repentant. Ce que Dieu veut réellement, c'est une vraie repentance, un vrai changement. Alors, faire des sacrifices, quand on dit « j'ai péché », je souhaite l'expiation des péchés, je viens avec un cœur repentant et je fais le sacrifice qui va avec, d'accord. Mais faire le sacrifice, si finalement le cœur n'y est pas, ça n'a aucune valeur. Et ça, c'est vraiment un discours très important que vous retrouverez chez les autres prophètes, que vous retrouverez jusque dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul s'en saisit dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Romains ne fait que citer Isaïe. Si vous lisez Isaïe, si vous comprenez Isaïe, vous avez à peine besoin de lire l'Épître aux Romains, parce que vous avez pratiquement tout dans le livre d'Isaïe. Et Paul revient là-dessus en disant, mais finalement, la vraie circoncision, c'est quoi? C'est pas la circoncision physique, charnelle, c'est la circoncision du cœur. Autrement dit, c'est l'état d'esprit qui l'accompagne. Donc tous ces gestes, toute cette liturgie, tous ces rituels ne servent à rien si on n'a pas en amont l'état d'esprit qui convient. Au verset 18, on voit que la visée de Dieu n'est pas simplement d'être en colère et de s'arrêter là. « Venez, je vous en prie, argumentons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Si vous voulez écouter, verset 19, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. » Verset 20, mais si vous refusez, voyez opposition, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par l'épée. Donc ça veut dire que Dieu a toujours une solution à proposer. Dieu a toujours, il est toujours là à tendre la main en disant, voilà, vos péchés sont écarlates, ils peuvent devenir blancs comme neige. Mais ce n'est pas la peine de faire des sacrifices si vous n'avez pas un vrai cœur repentant. Vous devez écouter. Donc il met en opposition deux attitudes, soit vous écoutez, vous êtes obéissant, soit vous refusez, vous êtes rebelle, verset 20. Et ces deux positions, on les avait déjà à la fin du Deutéronome. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et vous avez toute la liste des bénédictions qui vont pleuvoir sur le peuple s'il est fidèle, s'il est obéissant. Et puis à côté de ça, à la fin du Deutéronome, on met aussi la liste des malédictions qui s'abattront sur le peuple s'il est désobéissant. Donc ce discours, il est clair, on le trouve de façon répétée dans la Bible hébraïque, évidemment sous différents genres littéraires. Là, on est vraiment dans le genre prophétique. Alors les chapitres qui suivent, sont vraiment donc dénoncent le péché, l'iniquité d'Israël et de Juda. Le vocabulaire qu'on trouve à partir du verset 21, c'est le vocabulaire de la prostitution. La cité fidèle est devenue une prostituée. La cité fidèle, c'est Jérusalem. Elle est devenue une prostituée. Donc il y a personnification de Jérusalem, ça c'est fréquent. Et on la qualifie de prostituée. Alors cette prostitution, évidemment, elle a égard à la religion et notamment à l'adoration. La personnification du peuple ou de la ville comme une femme, elle est fréquente dans la Bible, c'est une femme et c'est même l'épouse de Dieu. Et quand les prophètes condamnent le peuple comme étant infidèle, eh bien on dit c'est une épouse infidèle, une épouse qui trompe son mari. Son mari c'est Dieu, donc tromper son mari, c'est-à-dire une femme qui sera infidèle, elle irait vers un autre homme. Un peuple qui est infidèle à son Dieu, c'est un peuple qui va vers un autre Dieu, tout simplement. Et donc il y a une sorte d'adultère, d'infidélité. Vous vous tournez vers d'autres dieux, vous vénérez d'autres dieux. Et là, c'est une autre thématique majeure de la littérature prophétique qu'on retrouvera également dans Isaïe, jusque dans le Deutéro-Isaïe, dans les chapitres entre 40 et 48, vous verrez, notamment chapitre 42, 43. Vous verrez, on verra ça tout à l'heure, on condamne l'idolâtrie. Donc là, il y fait allusion à l'idolâtrie. Elle se prostitue. Elle va vénérer d'autres dieux. On condamne également les chefs du peuple à tous les plans, que ce soit des responsabilités politiques, religieuses, etc. Verset 23, tes chefs sont rebelles, complices des voleurs, tous aiment les pots de vin, courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Verset 26, je te donnerai de nouveau des juges, comme par le passé. On t'appellera ville de justice. Verset 26. Vous voyez, donc, on dénonce l'injustice. Donc, on dénonce à tous les niveaux dans la société, que ce soit religieux ou civil. On dénonce l'iniquité du peuple. La question des faux dieux revient un peu plus loin, chapitre 2, verset 18. Tous les faux dieux seront balayés. Verset 20, en ce jour-là, l'être humain jettera aux rats et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or. Donc, on dit ces dieux sont des faux dieux et on insiste sur le côté matériel, la représentation matérielle au travers de statuettes faites d'argent et d'or. On y reviendra, notez-le, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je ne lis pas en détail les premiers chapitres, vous pouvez les regarder vous-même. On condamne à nouveau les responsables, les guides, chapitre 3, verset 12. Tes guides t'égarent, ils effacent le chemin que tu suis. Verset 14, le Seigneur entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Donc, vous voyez qu'il y a une attaque contre le peuple dans son ensemble, mais plus particulièrement contre les responsables du peuple. Ils ont une responsabilité supérieure. Voilà. Au chapitre 4, on revient encore sur cette théologie du reste. Verset 2, le germe du Seigneur deviendra beauté et gloire. Verset 3, celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints. Donc ceux qui restent, les rescapés. Tous ceux qui seront inscrits pour obtenir la vie à Jérusalem. Le chapitre 5 propose une métaphore. Agricole, la vigne. C'est une métaphore qu'on retrouvera au chapitre 27, verset 2. également dans le livre d'Osée, au chapitre 10. Et cette métaphore nous raconte la façon dont, finalement, Dieu a planté une vigne, il en attendait des fruits, et au lieu d'avoir des beaux fruits, il a des fruits pourris, puants. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va, nous dit-on verset 5, il va arracher la haie, ouvrir les brèches, il va la réduire en ruine, verset 6, etc., etc. En disant, voilà, finalement, si ma vigne ne produit pas de fruits, à quoi bon l'entretenir ? Autant la laisser. Alors, au passage, c'est un des textes que vous avez à préparer pour votre grand oral de fin de licence. Donc, si vous êtes interrogé sur ce texte, rappelez le contexte. On est bien dans ces premiers chapitres d'introduction, d'oracle, de jugement. On décrit le problème, voilà ce qui se passe. On met en avant, on met en évidence l'iniquité du peuple qui désobéit à Dieu, qui ne porte pas des fruits de justice, et tant dans le domaine religieux que civil. Alors, c'est intéressant, chapitre 5, verset 11, il est question d'alcool. Quel malheur pour ceux qui se lèvent de bon matin afin de rechercher l'alcool. Vous savez, on parle des piliers de bar et des gens qui sont très tôt le matin. Vous voyez, c'est en train de boire, c'est pas nouveau. Ceux qui sont échauffés par le vin, nous dit-on à la fin du verset 11. C'est très intéressant, la thématique de l'alcool est récurrente dans le livre d'Isaïe. Alors moi, j'étais un peu surpris. Quand j'ai découvert ça en lisant le... J'ai dit, tiens, c'est intéressant, alors, je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'il y avait un vrai problème d'alcoolisme à l'époque ? Est-ce que c'est... Je me suis dit, peut-être, est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que c'est au sens figuré ? Mais je n'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un vrai problème d'alcool. Et donc, ça devient récurrent. Je vous signerai au fur et à mesure, en tournant les pages, je vous montrerai. Je me suis mis des petits symboles, des petites marques dans la marge de ma Bible. À chaque fois qu'on condamne l'alcool, et vous allez voir, c'est vraiment régulier, l'abus d'alcool, ceux qui sont ivres dès le matin. Au verset 13, « C'est pourquoi mon peuple est exilé. » Donc là, on lâche le mot « exil ». On l'avait déjà évoqué au chapitre 1er. On parlait de l'arrivée des étrangers dès le premier chapitre, verset 7. « Votre pays est dévasté, vos villes sont incendiées, des étrangers dévorent votre territoire devant vous. » C'était déjà évoqué, mais là, on parle vraiment d'exil. On annonce l'exil. Alors l'exil, il concerne à la fois Israël, et vous savez que ça arrivera en 722 avant notre ère, donc pas très longtemps après l'époque où Isaïe a vécu, même en fait il a dû connaître cet exil, mais aussi l'exil du peuple de Judée au 6e siècle avant notre ère. Un peu plus loin, verset 22, on retrouve encore la condamnation de l'alcool. Quel malheur pour ceux qui sont vaillants quand il s'agit de boire du vin pour les héros de la préparation de l'alcool. Le chapitre, après cette section des cinq premiers chapitres, vous avez au chapitre 6 le récit de la vocation d'Isaïe. Alors c'est un chapitre important. On aurait pu penser qu'on aurait pu commencer le livre d'Isaïe par ce chapitre 6. C'est-à-dire, c'est le récit de la vocation d'Isaïe, c'est le début de son ministère prophétique. Donc ça aurait été logique de commencer par nous raconter qui est Isaïe, comment il est devenu prophète, ça c'est chapitre 6, et ensuite de dire voilà son discours prophétique. Et c'est pour ça que je vous dis, les cinq premiers chapitres ont probablement été ajoutés en tête du livre pour servir d'introduction. Donc ils ont pu être ajoutés même après le chapitre 6, au début. Hein, on l'a déjà vu avec les livres précédents, on fait souvent ça, quand on construit un livre, on ajoute des chapitres au début et à la fin. Le chapitre 6 nous présente la vision d'Isaïe, qui se retrouve comme ça en vision, en voyant des séraphins, verset 2. C'est la seule occurrence des séraphins dans la Bible hébraïque. Dans le Nouveau Testament, on en trouve une allusion, peut-être, dans l'Apocalypse, où il est question d'êtres qui ont six ailes, trois paires d'ailes. Et c'est le cas des séraphins ici. Donc on les retrouve peut-être, mais à vrai dire, c'est un peu particulier. Alors saraf, le verbe saraf, ça veut dire brûler, donc il y a, de cette racine on fait aussi des serpents. Alors est-ce qu'ils sont brûlants parce qu'ils font brûler du feu, ou est-ce qu'ils ont une tête de serpent, j'en sais rien. On ne les trouve pas ailleurs. Isaïe se retrouve donc devant cette vision, projetée dans cet univers, dans ce monde du divin. Il voit Yahvé, et puis donc ces êtres divins, et puis il a ce dialogue. et il est purifié. Il dit, verset 5, « Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi Yahvé. » Et donc à ce moment-là, un des séraphins lui touche les lèvres avec la braise, purifie ses lèvres et lui dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait, verset 8, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Je répondis, « Je suis là, envoie-moi. » Et donc là, il y a cet appel, cette réponse. Dieu qui cherche quelqu'un qui va se purifier et qui va ensuite être le porte-parole. Et que sa bouche soit purifiée, c'est-à-dire que les paroles qui sortent de sa bouche sont les paroles qui viennent de Dieu et non pas les siennes. C'est vraiment la définition même du prophète. Donc là, vous avez un passage central de réflexion sur finalement c'est quoi être prophète. Est-ce qu'on décide soi-même d'être prophète? Non, c'est Dieu qui appelle. Est-ce que soi-même, pour être prophète, on doit être parfait? Non, mais on doit être purifié. On doit passer par un processus de purification. Et puis surtout, quand on est prophète, on ne doit pas dire ses propres paroles, on doit se faire le porte-parole de Dieu. Et là, on va un peu plus loin, puisque au verset 9, Dieu lui dit, voilà, tu vas finalement parler au peuple, mais le peuple ne comprendra rien. Il lui dit, engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne revienne et ne soit guéri. Alors c'est terrible comme ministère, c'est-à-dire on a envie de dire, ben non, justement, si on envoie le prophète, c'est précisément pour qu'il ouvre les yeux au peuple, que le peuple se repente et qu'il guérisse, qu'il revienne de ses mauvaises voies. Alors en fait, vous allez retrouver ça, hein, ce principe est récurrent, vous l'avez dans Isaïe 48, vous l'avez dans Jérémie 5, vous l'avez dans Ézéchiel 12. On aura l'explication dans Isaïe 48. En réalité, le ministère prophétique prédictif, c'est-à-dire le prophète qui prédit les choses à l'avance, il ne fait pas que ça le prophète, mais quand il prédit les choses à l'avance, il a pour vocation de démontrer la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que si finalement un événement terrible se produit, et que a posteriori, le prophète dit, bah oui, mais voyez, ça c'est parce que vous avez mal fait, et du coup Dieu a envoyé le châtiment. Les gens peuvent toujours dire, mon œil, tu te rattrapes aux branches, t'inventes quelque chose pour essayer de faire croire que, mais non. Alors que si précisément les choses ont été annoncées à l'avance par Dieu, à ce moment-là, on a du poids quand on dit après, voyez, si ça s'est arrivé, c'est pas parce que Dieu a été pris au dépourvu, ou que Dieu a été incapable de protéger son peuple, pas du tout. En fait, ça faisait partie des projets de Dieu. La preuve, ça a été annoncé à l'avance. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois le besoin d'annoncer les choses à l'avance, mais cette annonce à l'avance n'a pas forcément pour but d'amener à la repentance du peuple, elle a surtout pour but de servir de preuve après les faits. Bon, c'est un peu compliqué. Hein. Alors je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, mais je vous explique simplement ce que veut dire ce texte. Après ça, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Donc on a ce récit au chapitre 6 de la vocation d'Isaïe. À partir du chapitre 7, on revient sur l'activité prophétique d'Isaïe, mais les chapitres 7 à 9 annoncent des naissances prophétiques. Ils ont ce caractère particulier qu'on n'est pas dans des oracles de jugement standard tel qu'on en a eu avant ou tel qu'on en retrouvera après. Ces chapitres sont là encore intéressants de par le fait qu'ils annoncent l'arrivée d'événements, la venue d'événements au travers de naissances prophétiques. On l'a dès le chapitre 7, au verset 3. Il est question du fils d'Isaïe. Donc ce sont les enfants d'Isaïe, j'entends. Shear Yashuv. Donc il est question d'un fils. Et ce fils a un nom qui veut dire quelque chose. Shear Yashuv, ça veut dire un reste reviendra. C'est ça que ça veut dire. Donc on est en plein dans la théologie du reste. Donc le nom même de cet enfant annonce d'une part la venue des ennemis. En l'occurrence ici, on est vers, disons, les années 730, à peu près, quelque chose comme ça, 720. On est donc dans le troisième tiers du 8e siècle avant notre ère. Et il y a une coalition syro-éphraïmite. Et donc on annonce et on dit, verset 8, « Encore 65 ans, Éphraïm brisé ne sera plus un peuple. » Le deuxième fils, dont le nom est prophétique, On l'a un peu plus loin, au verset 14, c'est Immanuel. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom Immanuel. Et tout ça, ce sont des signes. Hein. Regardez au verset 10, verset 11, le Seigneur dit encore à Akaz, demande un signe au Seigneur. C'est-à-dire que la naissance prophétique et le nom même de l'enfant est le signe que le roi demande. On nous dit au verset 16, avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des deux rois qui est épouvante sera abandonnée. Donc, la naissance de l'enfant marque une sorte de compte à rebours et annonce la destruction des ennemis. Le troisième enfant, on le voit au chapitre 8. Le Seigneur me dit, prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible, Maher Shalal Hashbaz. Et c'est le nom du troisième enfant du prophète Isaïe, dont le nom est là encore prophétique, vite au butin, en hâte, au pillage. Je lis la traduction de la Neuville II. Si vous voulez une étude plus précise de ce passage, je publie dans les semaines qui viennent un chapitre dans un livre qui s'intéresse à Isaïe 8. Je ne me souviens plus du titre de ce livre, mais c'est édité par Gilbert Dahan, Annie Noblesse, Mathieu Arnold, qui s'intéresse à l'histoire de l'exégèse d'Isaïe 8. Et donc j'ai écrit le premier chapitre qui s'intéresse au texte biblique lui-même d'Isaïe 8, dans le texte hébreu et la signification, etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vous invite à lire ce chapitre qui s'intitule « Une naissance prophétique peut en cacher une autre ». Voilà. Et là encore, la naissance de cet enfant, on nous dit, verset 4, « Avant que l'enfant sache dire papa-maman », vous voyez l'aspect compte à rebours, « on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie ». Vous voyez, la coalition syro-éphraïmite, c'est-à-dire la coalition du roi araméen et du roi israélite, elle est vouée à l'échec, et le compte à rebours est lancé. Et on retrouve dans ce texte, au verset 8, Immanuel, la mention du fils précédent, qui a été mentionné au chapitre 7, Emmanuel. Et puis un peu plus loin, au chapitre... Alors, vous voyez, au chapitre 8, je continue, il dit, verset 18, « Moi-même et mes enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Donc, vous voyez, dans ces chapitres-là, 7 à 9, on est vraiment dans cette notion de naissance prophétique. Les enfants eux-mêmes, le prophète et ses enfants, sont des signes. Au chapitre 9, verset 5, il est fait allusion encore à une autre naissance. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Il a la souveraineté sur son épaule, on l'appellera du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Donc c'est un nom très très long. Hein. Alors bien sûr, ces textes, vous avez peut-être entendu, notamment à l'époque de Noël, forcément, puisqu'on annonce la naissance, et on vient lire ces textes-là. Vous voyez au chapitre 7, verset 14, la jeune fille sera enceinte, etc. Elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Ici-là, chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, etc. On se dit, bien sûr, c'est Jésus. Ça n'est pas le contexte primitif de ces chapitres. Vous voyez bien, on est dans le contexte du 8e, on est au 8e siècle avant notre ère. Il est question d'une coalition araméenne et israélite. Il est question du roi d'Assyrie, hein, chapitre 7, verset 17, etc., etc. Bref, on revient à chaque fois sur l'invasion assyrienne, chapitre 8, verset 7. Donc on est en plein à l'époque néo-assyrienne. Ce qui n'empêche la réinterprétation de ces textes. Ça n'a pas empêché des gens à un moment donné de réinterpréter ces textes, d'abord dans le judaïsme, comme des textes messianiques, et puis également dans le christianisme, bien sûr, comme faisant allusion à la naissance de Jésus. Mais retenez bien que ça n'est pas du tout ce que l'auteur avait en tête quand il a écrit ces chapitres. Ensuite, on revient, on vient clore... Alors, au chapitre 10, on parle de la Syrie, on condamne spécifiquement la Syrie, ce qui est bien dans la suite des chapitres qui précèdent. Verset 5, « Quel malheur pour l'Assyrien, le bâton de ma colère !» Vous voyez, donc on prononce des paroles de malédiction sur le roi assyrien. Notez bien qu'il est qualifié ici de bâton de la colère. Le bâton, c'est-à-dire qu'il est entre les mains de Dieu. Et Dieu l'utilise. Un bâton, c'est un instrument. C'est le bâton de la colère, autrement dit, c'est l'instrument de la colère divine. Et là encore, on vous dit bien, attendez... Le roi assyrien qui vient, qui fait toutes ses conquêtes, etc., etc., vous avez peut-être l'impression qu'il fait ça de lui-même, mais en réalité, c'est un pion sur l'échiquier. En réalité, c'est Dieu qui le contrôle. Et il est l'instrument de la colère divine. Alors qu'il ne le sait pas, hein. On dit verset 7, hein, « Il n'en juge pas ainsi, ce n'est pas ainsi qu'il le pense, etc. etc. » Il a dit, verset 13, « C'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. » Donc Dieu dit, finalement, le roi assyrien, il se croit intelligent, il pense qu'il est fort et intelligent, c'est pour ça qu'il y arrive, mais pas du tout. En fait, verset 15, « La hache se vante-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert ?» Autrement dit, c'est une hache entre mes mains. C'est ça, le roi d'Assyrie. La scie se grandit-elle aux dépens de celui qui la manie, comme si le bâton maniait celui qui le soulève, comme si la trique soulevait celui qui n'est pas en bois. Donc dit le roi assyrien, il pense qu'il a la victoire, il pense même que, mais en fait, c'est pas vrai du tout, c'est moi qui le manipule. Et ça ne veut pas dire pour autant que le roi assyrien sera exempté, puisqu'on nous dit au verset 12, « Je ferai rendre des comptes au roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur présomptueux. » Donc d'un côté, les ennemis sont utilisés par Dieu, d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas jugés après coup. Et vous retrouverez le même discours chez Habacuc, je crois. J'ai un trou d'un seul coup, non, je crois que c'est ça. Où justement, Habacuc va se plaindre en disant « Mais tu utilises des gens qui sont encore plus iniques que nous pour nous punir. » Et Dieu lui répond « Mais t'inquiète pas, leur tour viendra, eux aussi vont être punis à leur tour. » Donc ça veut dire que Dieu peut parfaitement utiliser des gens qui ne sont pas spécialement au service de Dieu et qui ne sont pas spécialement saints. Verset 20, en ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer. Donc vous voyez, la théologie du reste qui revient. Un reste reviendra, verset 21, c'est Sher Yashuv, hein, on reprend au chapitre 10 le terme qu'avait employé au chapitre 7 pour le premier fils de la naissance prophétique. Et puis, chapitre 11 et 12, là, on envisage le salut. Chapitre 11, un rameau sortira du tronc de Jessé. Vous savez qui c'est Jessé ? C'est le père de David. Donc, autrement dit, il y fait allusion à un descendant de Jessé, un descendant de David. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, etc., etc. Donc on annonce la venue d'un nouveau roi, descendant de David. Donc là, on est dans l'idéologie messianique, royale, davidique. On en avait parlé en 2 Samuel chapitre 7, en disant qu'il y a une postérité, une dynastie éternelle. Donc là, on revient sur cette idéologie davidique, en disant, voilà, c'est lui qui restaura le peuple. Et alors, on envisage des choses, vous voyez, le loup séjournera avec le mouton, chapitre 6, etc. Et ça, c'est pareil, c'est des thématiques qui reviendront en chapitre 65. Oui ?
Pourquoi on dit Jessé ? Si c'était vraiment David,
Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas David directement ? C'est une formule poétique. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est comme parfois, on va dire Éphraïm, alors ou on va dire Joseph, alors que, enfin voilà, donc on va utiliser certains noms de la famille, on se balade, disons, dans la famille. C'est, à mon avis, c'est vraiment juste pour... je pense que c'est plus pour des variations stylistiques et pour une finesse de langage que pour envisager que ça puisse être quelqu'un de la descendance d'un des frères de David, par exemple. On ne peut pas bâtir une théorie là-dessus en disant non, en fait, justement pas, c'est pas un descendant de David, c'est un descendant d'un des frères de David. Mais une question ? Oui, non, je suis pas sûr, parce que là, je pense vraiment, enfin, parce que Jessé, c'est le père de David, évidemment, mais en même temps, on va retrouver David mentionné à peu près partout, quoi. Alors, sauf si on considère que, en même temps, Jessé, c'est le tronc, un rameau sortira du tronc de Jessé, donc de dire que David est lui-même issu de Jessé, c'est une branche, donc il y aura d'autres branches, je sais pas. J'ai pas vraiment réfléchi à cette question, mais moi, j'ai quand même dans l'idée que c'est vraiment des... pour varier, et puis pas dire David comme ça bêtement, mais avoir quelque chose d'un peu plus subtil, je pense. Oui, donc je vous disais ici, les questions du loup avec le mouton, la vache et l'ours, verset 7, auront un même pâturage. Verset 8, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Ça, vous retrouvez ça au chapitre 65. Donc c'est encore, je vais vous montrer les liens entre la première partie d'Isaïe, le proto-Isaïe et le deutéro-Isaïe. Mais j'insiste là-dessus parce que, pendant très longtemps, on les considérait comme deux livres totalement distincts. Il y a le proto-Isaïe, le deutéro-Isaïe, et on avait l'impression que c'était deux livres complètement distincts. Je crois qu'il faut quand même souligner les affinités et l'unité littéraire dans ces livres. Oui ? Alors, le deutéro-Isaïe, on y viendra tout à l'heure, mais je vois que l'heure tourne, donc on y vient. Voilà, je te réponds dans 5 minutes. Voilà. Alors... le chapitre 12, donc chapitre 11-12, perspective de salut, la fin des temps, tout va bien, blablabla, c'est super. Ça achève une première partie du proto-Isaïe. La deuxième partie, elle commence au chapitre 13, et là, vous avez des oracles contre les nations. Pas simplement contre Israël et Juda, mais là, c'est des oracles contre toutes les nations qui vont, une sorte de, il va y avoir un inventaire. On va toutes les faire passer. Et cet oracle, donc des chapitres 13 à 24, sera ensuite poursuivi au chapitre 25 à 27 par une vision de salut et de victoire. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un cycle, on commence par des oracles de jugement, mais ça termine toujours bien. On termine toujours par annoncer le salut, la rédemption, la victoire, etc., etc. Donc on l'a vu avec les chapitres 11, 12 qui viennent compléter les chapitres qui précèdent. Et là, on l'a de nouveau avec entre chapitres 13 à 27, disons. Donc 13 à 24, c'est contre les nations. Par exemple, chapitre 13, 14, c'est contre Babylone. Donc là, on s'en prend à Babylone, on condamne tous les péchés de Babylone, etc., etc. Alors notez que le chapitre 14 a souvent été interprété, regardez verset 12, « Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » On dit « Ah, mais alors donc c'était un ange, il est tombé du ciel, c'est les anges déchus. » Vous voyez ?« Tu te disais, verset 13, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de la rencontre, etc. » Et donc en disant « Voilà, finalement, ça nous raconte l'histoire d'un ange qui a voulu s'élever au-dessus des dieux, qui a voulu devenir calife à la place du calife, et qui finalement a été précipité sur terre. » Alors certains disent « Mais voilà, c'est l'origine de Satan. » Voilà. Sauf qu'il est bien question de Babylone. Regardez encore verset 22. « Je retrancherai le nom et le reste de Babylone, etc. etc. » Donc c'est là encore, si vous voulez y voir une allusion au récit de l'origine de Satan, etc., si vous voulez, mais en même temps, ce n'est pas du tout ce dont il est question ici. Et le côté divinisé du roi, c'est pas non plus un phénomène. C'est normal. Les rois sont divinisés de fait. Il est question au verset 9. Il éveille pour toi les ombres. Je lis la Nouvelle Bible Second. En hébreu, ce sont les Réphaïm que vous retrouverez au chapitre 26. Les Réphaïm, c'est traduit par les ombres ou les manes dans certaines traductions avec l'accent circonflexe. Pas la manne dans le désert, les manes. Et en fait, ce sont à Ougarit, ils sont connus dans les textes ougaritiques du XIIIe siècle avant notre ère. Il est question des Rapa'uma, c'est-à-dire des Réphaïm, et on nous dit que ce sont, on comprend hein, que ce sont en fait des rois défunts divinisés et auxquels on voue un culte. Et là, c'est de ça dont il est question ici, c'est d'un roi qui se prend pour un dieu et qui veut qu'on lui voue un culte, alors peut-être pas de son vivant, mais une fois qu'il sera mort en tout cas, et qui s'imagine qu'une fois qu'il sera mort, il sera divinisé. Et on lui dit, pas du tout, ôte-toi ça de la tête. Bref, ensuite, chapitre 14b, il est question de la Syrie, 14c, il est question de la Philistie, chapitre 15 et 16, il est question de Moab, chapitre 17, il est question de Damas, chapitre 18, il est question de Couch. Couch, vous savez où c'est au sud de l'Égypte. Chapitre 19, il est question d'Égypte, précisément. Ah oui, au fait, il est encore question de l'alcool, hein, regardez, verset 14, chapitre 19, verset 14, un homme ivre s'égare dans son vomissement, bon appétit. Et puis, à la fin du chapitre 19, il y a une vision extraordinaire. En ce jour-là, il y aura une route, je lis au verset 23, 19-23, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, les Égyptiens serviront avec les Assyriens. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, être une bénédiction sur la terre. Que le Seigneur des armées bénira en disant, alors écoutez bien, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon patrimoine. » Donc là, on se projette dans un avenir, c'est eschatologique, hein, c'est la fin des temps, et on imagine un avenir où finalement l'Égypte sera le peuple de Dieu, la Syrie, Israël. Il y a une perspective, une visée universaliste. Alors notez bien ça, parce qu'on retrouvera là encore ça à la fin du livre d'Isaïe, cette visée universaliste. Chapitre 20 et... une petite parenthèse narrative, il est question d'Assyrie, de l'Égypte et de Couch. On revient, chapitre 21, à Babylone. On parle de l'Arabie, verset 13. Petite parenthèse, chapitre 22, les questions de Jérusalem. On revient, chapitre 23, à la Phénicie. Et puis, chapitre 24, à ce moment-là, il y a un oracle, mais alors contre tout le monde, une sorte d'oracle universel. Le Seigneur vide la terre. Donc c'est la terre tout entière. Verset 3, la terre est complètement vidée, etc. Il ne reste qu'un petit nom. Verset 7, le vin est en deuil. Voilà, encore question du vin. C'est les je vous dis. Verset 19, la terre se fissure, la terre craque, la terre vacille, la terre titube. Vous voyez, il y a, comme titube l'ivrogne. Bon, il y a encore question de vin. Et puis surtout, on voit, c'est la terre dans son ensemble. Donc c'est la fin de tout, de toute la terre. Le Seigneur fera rendre compte en haut à l'armée d'en haut, verset 21, et sur la terre au roi de la terre. Donc c'est pas simplement même sur la terre, c'est même c'est pas juste universel, planétaire, je crois. Non, même c'est plus que planétaire, c'est plus que mondial, c'est l'univers tout entier, quoi. La lune rougit, le soleil a honte, voyez, donc c'est les astres, les planètes, c'est vraiment on dépasse même la surface de la terre. Donc ça, c'est tous les oracles des jugements, chapitres 25 à 27, on revient, on annonce salut et victoire. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, chapitre 25, verset 8, ce sont des textes très beaux. On chantera, chapitre 26. Chapitre 27, victoire sur tout le monde, Léviathan, etc. Verset 2, en ce jour-là, entonnez un cœur pour la vigne. Au vin capiteux. Ah, la vigne, vous vous rappelez, chapitre 5? Eh bien, finalement, ce jour-là, cette vigne, eh bien, elle produira du fruit. Verset 9, la faute de Jacob est expiée. Les chapitres 28 à 35 sont encore un autre cycle, le dernier cycle du proto-Isaïe. Oui, on a encore une alternance entre on annonce le malheur, on annonce la destruction, et puis on annonce la délivrance, le salut. Par exemple, chapitre 28, il est question de Samarie. Il est mentionné Éphraïm au verset 1. Éphraïm, bien sûr, c'est Samarie. Et il est question des ivrognes d'Éphraïm, des ivrognes, etc. On y retrouve verset 2, verset 1, verset 3, etc. Il est question du reste, verset 5. Verset 7, de nouveau l'alcool, etc. etc. Donc, et puis à chaque fois, on alterne avec le salut. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Alors cette pierre angulaire, évidemment, il y a toute cette reprise dans le Nouveau Testament par rapport à Jésus, évidemment. Dans Luc chapitre 2, dans Romains chapitre 9. Chapitre 29, il est question de Jérusalem. Vous voyez, chapitre 28, c'était Samarie, là c'est Jérusalem. Chapitre 30, il est question des dirigeants. Je vous dis attention, on condamne tout particulièrement les dirigeants. 30a. Chapitre 30b, on revient à l'Assyrie, à l'Égypte. En rapport avec en tant qu'appui du peuple d'Israël, on condamne le fait que le peuple d'Israël s'appuie sur l'Égypte et la Syrie qui ne sont pas de bon soutien. Chapitre 32, on annonce le salut. On revient, chapitre 33, les questions des ennemis, mais qui tranchent avec évidemment la délivrance, le salut. Chapitre 34, on oracle contre Édom. Et puis chapitre 35, le salut. Donc, vous voyez cette alternance entre jugement et puis salut. Donc chapitre 35 est très très beau. C'est vraiment un très très beau chapitre. Je regrette de ne pas avoir plus de temps vraiment à consacrer à ces textes. Ils sont fabuleux. Les chapitres 36 à 39, je vous disais donc, on reprenne deux rois 18-20. Alors quand je dis qu'ils reprennent deux rois 18-20, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être deux rois 18-20 qui reprennent. Mais là, c'est quand même un petit peu, on sent que ça fait un peu tâche, disons, dans un genre prophétique d'avoir un texte narratif. Donc à mon avis, c'est plutôt que ça a été repris d'ailleurs. Hein. Dans ces chapitres-là, et qui permet de faire la transition entre l'époque néo-assyrienne et l'époque néo-babylonienne. En particulier, chapitre 39, qui annonce la venue d'envoyés de Babylone, à l'époque même des néo-assyriens, qui préfigure la prise de pouvoir de Babylone, et qui annonce la venue des Babyloniens. Ensuite, les chapitres 40 à 66, et donc la deuxième partie, c'est Deutéro-Isaïe, qui sont des textes qui changent radicalement de discours. On annonce la consolation du peuple, le triomphe, la restauration. Donc ça couvre les chapitres 40 à 66. C'est le Deutéro-Isaïe. Maintenant, au sein de cette grande section, on peut distinguer les chapitres 40 à 55 qui se focalisent tout particulièrement sur la consolation et les chapitres 56 à 66 qui parlent notamment de la restauration de Jérusalem et de la centralité de Jérusalem comme lieu de prière où toutes les nations viendront, de ce côté universaliste, etc. Et là, on vise la fin des temps. Alors effectivement, certains ont proposé de séparer ces deux sections, disons 40-55 c'est Deutéro-Isaïe, 56-66 c'est le Trito-Isaïe. On peut le faire parce qu'effectivement thématiquement on voit bien une distinction thématique, la consolation d'une part, la restauration d'autre part. On peut également envisager une progression tout simplement logique dans le texte. Et il y a d'autres arguments qui sont en défaveur de cette séparation, notamment la question des cantiques du serviteur. C'est-à-dire il y a des passages où il est question du serviteur de Dieu. On peut se poser la question, il y en a quatre si vous voulez dans les chapitres 40 à 55, il pourrait y en avoir un cinquième dans le Trito-Isaïe. Voilà. Donc à ce moment là est-ce que c'est vraiment un Trito-Isaïe ou pas, enfin, vous pouvez utiliser le vocabulaire que vous voulez, mais donc ça ne me paraît pas aussi évident. Autant il y a une rupture nette entre la première partie et la deuxième partie du livre, avec clairement cette interlude narratif des chapitres 36 à 39, on peut difficilement faire une transition plus brutale, j'allais dire, enfin très nette, disons, en disant voilà, on vous met carrément plusieurs chapitres où on change carrément le genre littéraire. Donc là, il y a vraiment une rupture majeure dans le texte lui-même et qui est indiquée par le texte lui-même. Autant là, quand on passe du chapitre 55 à 56, franchement, si on ne fait pas attention, on les lit dans la foulée, quoi. Donc la distinction me paraît moins nette entre Deutéro et Trito Isaïe. Donc je suis moins convaincu que ce soit pertinent de parler d'un Trito Isaïe. Donc les premiers chapitres, chapitres 40 et quelques, sont des textes qui parlent de consolation. Verset 1, consolez, consolez mon peuple. Et donc là, on s'adresse aux gens qui sont déportés. Frayez le chemin du Seigneur. Donc on annonce le retour du peuple. Dis aux villes de Juda, verset 9, votre Dieu est là, le Seigneur Dieu vient avec force. Donc on parle aux gens de la Judée et on dit, voilà, vous allez revenir de Babylone, vous allez repeupler la Judée. Et évidemment, il va falloir expliquer, il faut consoler le peuple, il faut aussi lui expliquer comment Dieu a pu faire ça. Le peuple peut se sentir abandonné en disant, mais comment Dieu a permis qu'on parte en exil, qu'on soit déporté, etc. Donc voilà, rassurer le peuple quant à l'amour de Dieu. Donc il y a des très beaux textes qui parlent de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Mais voilà, oui, bien sûr, il a fallu que je vous fasse partir en exil parce que voilà, c'était le seul moyen de purifier le peuple, mais de préserver un reste et de revenir, etc. Il faut aussi rassurer le peuple quant à la souveraineté de Dieu. Et en particulier, il y a des textes où on pourrait douter en disant, mais est-ce que Dieu est vraiment puissant? Est-ce que, on dit, oui, Dieu est souverain, c'est le seul Dieu. Donc on a des textes qui approchent le monothéisme. Pas forcément au sens ontologique en disant les autres dieux n'existent pas, mais où on affirme la suprématie de Dieu. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dès lors qu'on affirme que finalement Yahvé, à lui tout seul, eh bien, il contrôle tout, il fait tout, ça veut dire qu'il est responsable de tout. Ça veut dire aussi qu'il est responsable de l'exil. En un sens, ça veut dire que, oui, ne vous inquiétez pas, l'exil, c'est pas moi qui ai été impuissant, c'est pas moi qui ai été vaincu par un autre dieu plus fort que moi, c'est pas vrai, il n'y a pas d'autre dieu plus fort que moi, il n'y a que moi. Donc le corollaire immédiat, c'est que je suis également responsable de cet exil. Et vous avez des textes qui sont presque choquants, chapitre 45, verset 7, par exemple, où on nous dit « Je façonne la lumière, je crée les ténèbres, je fais la paix, je crée le malheur. » Dieu crée le malheur. Alors on dit « Quoi ? Mais Dieu, mais non, Dieu est un Dieu bon, oui, mais non. » Si c'est le seul Dieu, si c'est lui qui gère tout, il est aussi responsable de tout ça. Donc il faut bien préciser que Dieu est souverain. Au chapitre 45, il est mention de Cyrus aussi, qui est le roi perse qui vient prendre la victoire sur les Babyloniens, et c'est lui qui va autoriser le retour du peuple en Judée. Et là encore, il est présenté comme étant l'instrument entre les mains de Dieu. Donc Dieu est souverain, c'est lui qui contrôle tout. Dans ces chapitres-là, on condamne également l'idolâtrie. Ce sont les passages où on dit, n'allez pas, maintenant que vous êtes à Babylone, forcément vous êtes tenté de succomber à l'idolâtrie, de vénérer les dieux, etc. Vous avez des chapitres très très drôles où on se moque des statues en disant, voilà, vous leur parlez, mais est-ce qu'elles entendent? Vous êtes obligé de les porter, vous les mettez dans votre sac, voilà, c'est du bois, c'est du... Bref, en disant, ce sont des faux dieux, ils n'existent pas. Vous leur parlez, ils ne répondent pas, il faut les nourrir, il faut tout ça. Ben moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, 5 minutes encore, merci. Et donc, il y a cette idée de condamnation de l'idolâtrie et des statues. Donc ça, c'est vraiment des passages qui sont très intéressants pour ça. Donc, on dit, l'argile peut-elle dire à celui qui la façonne, que fais-tu, etc., etc. Chapitre 45, verset 9. Chapitre 46, Bel s'agenouille, Nebo se courbe. Ce sont les dieux babyloniens. Donc Dieu affirme sa suprématie. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Bah oui, parce que vous emmenez les statuettes avec vous en captivité. Verset 5, à qui me comparez-vous, me rendrez-vous égal? Verset 9, je suis Dieu, il n'en a pas d'autre. Donc vous voyez, il y a cette affirmation, c'est moi qui ai Dieu. Pas forcément du vrai monothéisme, mais vraiment la notion de la suprématie de Dieu. Au chapitre 47, on explique... verset 3, depuis longtemps j'avais annoncé ce qui s'est passé. Verset 4, sachant que tu es rétif. Verset 5, je te l'ai annoncé dès longtemps, je te l'ai fait entendre avant que cela n'arrive, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui l'a fait, c'est ma statue. Donc c'est là qu'on revient à cette histoire d'Isaïe 6. Dieu l'a annoncé à l'avance précisément pour que le peuple ne puisse pas dire ensuite que Dieu n'était pas au courant ou qu'il était pour rien. On a ensuite les cantiques. À partir du chapitre 49, il y a cette section des cantiques du serviteur qui viennent ponctuer le texte. Vous en avez déjà eu un premier, en fait, au chapitre 42, où il est question du serviteur de Dieu, qui est en fait une personnification du peuple d'Israël. Vous l'avez au chapitre 42, vous l'avez au chapitre 49, vous le retrouvez au chapitre 50, verset 4, vous le retrouvez au chapitre 52, verset 13, et pourquoi pas, chapitre 61, verset 1. Sauf que là, on a un discours à la première personne. Et donc, cet envoyé, ce messager, ce serviteur de Dieu qui vient pour apporter la nouvelle. Au chapitre 42, il y a le souffle de Dieu repose sur lui. Au chapitre 61, le souffle du Seigneur est sur moi. Donc, c'est celui sur qui est le souffle, l'esprit du Seigneur, et qui vient donc pour soit diriger le peuple, donc soit c'est une personne, c'est-à-dire le dirigeant du peuple, soit c'est le peuple dans son ensemble qui est le reste. Si vous voyez, il s'agirait non pas du peuple tout entier, mais du reste du peuple. Voilà. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que malheureusement il ne reste que 3 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire en quelques minutes? À partir du chapitre 56, effectivement, on a la vision de Jérusalem, centre du monde. Jérusalem qui est le lieu où tous les peuples viennent, hein, maison de prière pour tous les peuples, chapitre 56, verset 7, donc à ce côté universel. Et il s'agit de restaurer le vrai culte. Rappelez-vous, tout au début du livre, on avait condamné les sacrifices, les fêtes. Et bien là, la même chose, au chapitre 58, on condamne le jeûne, en disant, mais attendez, si vous jeûnez, il dit, verset 6, le jeûne que je préconise, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté, de dénouer les liens du joug, de renvoyer libre ceux qu'on écrase, etc. C'est de partager ton pain avec celui qui a faim, verset 7. C'est ça, le vrai jeûne. Donc tous ces gens qui sont très spirituels, très religieux, qui disent, voilà, très pieux, je vais à l'église tous les dimanches, d'accord. Mais si tu ne partages pas ton pain avec celui qui a faim, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment ce côté de ce que Dieu attend. Et il attend du peuple un vrai changement de mentalité, que le peuple puisse non plus être venir à Jérusalem juste pour faire le sacrifice, pour être dans le faire, mais vraiment qu'il y ait une véritable repentance, un changement intérieur. Et là, on envisage vraiment la lumière qui brille pour toutes les nations. Chapitre 60, verset 4. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin. Verset 7b, je ferai resplendir la maison de ma splendeur. Donc il y a vraiment ces passages qui sont très très beaux. À la fin, les derniers chapitres résument à nouveau tout le discours prophétique. Rappelez-vous qu'au premier chapitre, on avait toutes les étapes 1, 2, 3, 4, le péché, le châtiment, la restauration, etc. Et bien tout à la fin du livre, en sorte de conclusion, vous avez encore de nouveau une synthèse avec les différentes étapes. Là, vous regardez les chapitres 63, 64, 65, etc. Vous retrouvez, premièrement, la mention du peuple. Israël, c'est son peuple. Deuxièmement, donc voilà, c'est à partir du verset 7. J'évoquerai ce que le Seigneur a fait dans sa fidélité à cause de tout ce que le Seigneur a fait, etc. Donc, ils sont mon peuple, verset 8. D'accord. Ensuite, verset 10, ils ont été rebelles. Donc, deuxième étape, la rébellion. Troisièmement, la repentance. Verset 16, c'est toi qui es notre Père, notre Rédempteur, reviens, etc. Donc, repentance. Et puis, quatrièmement, la restauration. Chapitre 65. Donc, vous voyez les étapes. Premièrement, c'est son peuple. Deuxièmement, il se rebelle. Troisièmement, il y a repentance. Quatrièmement, restauration. Alors, évidemment, entre la rébellion et la repentance, il y a le châtiment, évidemment. J'ai oublié de vous préciser ça, mais voilà. Et donc, dans ces derniers chapitres, vous avez là encore une sorte de synthèse de tout ce discours prophétique. Et puis voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera. Mais je vous invite à lire et relire le prophète Isaïe, qui sont très beaux, qui se terminent, même le dernier chapitre est absolument fabuleux, sur cet amour de Dieu pour son peuple. Il y a plusieurs versets qui disent que Dieu aime son peuple, qu'il donne des nations pour elle. Verset 12, vous serez allaité, vous serez porté sur la hanche et caressé sur les genoux. Donc cet amour de Dieu qui est l'amour d'une mère pour son nourrisson, pour son enfant, quoi. Donc les traits maternels, évidemment, de Dieu, les traits féminins de Dieu. Dieu n'est pas simplement homme, il est aussi femme. Bonne semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des questions, j'ai 2 minutes, mais pas beaucoup plus. Oui ?